conserve et distillation. Il passait des jours dans la cave à enlever le tartre des bouteilles, revernir tous les meubles, encaustiquer les chambres. Chaque soir, en regardant le bois brûlé, il dissertait sur le meilleur système de chauffage. Ils tâchèrent, par économie, de fumer des jambons, de couler eux-mêmes la lessive. Germaine, qu'ils incommodaient, haussait les épaules. À l'époque des confitures, elle se fâcha et ils s'établirent dans le fournil. C'était une ancienne buanderie où il y avait sous les fagots une grande cuve maçonnée, excellente pour leur projet, l'ambition leur étant venue de fabriquer des conserves. 14 bocaux furent emplis de tomates et de petits pois. Ils en luttèrent les bouchons avec de la chaux vive et du fromage, appliquèrent sur les bords des bandelettes de toile, puis les plongèrent dans l'eau bouillante. Elle s'évaporait, ils en versèrent de la froide. La différence de température fit éclater les bocaux. 3 seulement furent sauvés. Ensuite, ils se procurèrent de vieilles boîtes à sardines, y mirent des côtelettes de veau et les enfoncèrent dans le bain-marie. Elles sortirent rondes comme des ballons. Le refroidissement les aplatirait. Pour continuer l'expérience, ils enfermèrent dans d'autres boîtes des œufs, de la chicorée, du homard, une matelote, un potage. Et ils s'applaudissaient, comme M. Appert, d'avoir fixé les saisons. De pareilles découvertes, selon Pécuchet, l'emportaient sur les exploits des conquérants. Ils perfectionnèrent les achats de Mme Bordin en épissant le vinaigre avec du poivre, et leurs prunes à l'eau-de-vie étaient bien supérieures. Ils obtinrent par la macération des ratafias de framboise et d'absinthe. Avec du miel et de l'angélique dans un tonneau de bagnole, ils voulurent faire du vin de Malaga. Et ils entreprirent également la confection d'un champagne. Les bouteilles de Chablis, coupées de mou, éclatèrent d'elles-mêmes, alors ils ne doutèrent plus de la réussite. Leurs études se développant, ils en vinrent à soupçonner des fraudes dans toutes les denrées alimentaires. Ils chicanaient le boulanger sur la couleur de son pain. Ils se firent un ennemi de l'épicier en lui soutenant qu'il adultérait ses chocolats. Ils se transportèrent à Valaise pour demander du jujube et, sous les yeux même du pharmacien, soumirent sa pâte à l'épreuve de l'eau. Elle prit l'apparence d'une couenne de lard, ce qui dénotait de la gélatine. Après ce triomphe, leur orgueil s'exalta. Ils achetèrent le matériel d'un distillateur en faillite, et bientôt arrivèrent dans la maison des tamis, des barils, des entonnoirs, des écumoirs, des chausses et des balances, sans compter une sébile à boulet et un alambic tête de mour, lequel exigea un fourneau réflecteur avec une hotte de cheminée. Ils apprirent comment on clarifie le sucre et les différentes sortes de cuites. Le grand, le petit perlé, le soufflé, le boulet, la morve et le caramel. Mais il leur tardait d'employer l'alambic, et ils abordèrent les liqueurs fines en commençant par l'anisette. Le liquide presque toujours entraînait avec lui les substances, ou bien elles se collaient dans le fond. D'autres fois, ils s'étaient trompés dans le dosage. Autour d'eux, les grandes bassines de cuivre reluisaient, les matras avançaient leurs becs pointus, les poêlons décoraient le mur. Souvent, l'un triait des herbes sur la table, tandis que l'autre faisait osciller le boulet de canon dans la sébile suspendue. Il mouvait les cuillères, il dégustait les mélanges. Bouvard, toujours en sueur, n'avait pour vêtement que sa chemise et son pantalon tirés jusqu'au creux de l'estomac, par ses courtes bretelles. Mais, étourdi comme un oiseau, il oubliait le diaphragme de la cucurbite ou exagérait le feu. Pécuchet marmottait des calculs, immobile dans sa longue blouse, une espèce de sarrau d'enfant avec des manches, et il se considérait comme des gens très sérieux et occupés de choses utiles. Enfin, ils rêvèrent une crème qui devait enfoncer toutes les autres. Ils y mettraient de la coriandre, comme dans le cuvel, du kirsch, comme dans le marasquin, de l'hysope, comme dans la chartreuse, de l'ambrette, comme dans le vespetro, du calamus aromaticus, comme dans le crambambuli, et elle serait colorée en rouge avec du bois de santal. Mais Mais sous quel nom l'offrir au commerce? Car il fallait un nom facile à retenir, et pourtant bizarre. Ayant longtemps cherché, ils décidèrent qu'elle se nommerait la Bouvarine. Vers la fin de l'automne, des taches parurent dans les trois bocaux de conserve. Les tomates et les petits pois étaient pourris. Cela devait dépendre du bouchage. Ah, alors le problème du bouchage les tourmenta. Pour essayer les méthodes nouvelles, ils manquaient d'argent et leur ferme les rongeait. Plusieurs fois, des tenanciers s'étaient offerts. Bouvard n'en avait pas voulu. Mais son premier garçon cultivait d'après ses ordres, avec une épargne dangereuse, si bien que les récoltes diminuaient, tout périclitait, et il causait de leur embarras quand Maître Gouy entra dans le laboratoire, escorté de sa femme qui se tenait en arrière timidement. Grâce à toutes les façons qu'elles avaient reçues, les terres s'étaient améliorées, et il venait pour reprendre la ferme. Il la déprécia. Malgré tous leurs travaux, les bénéfices étaient chanceux. Bref, s'il la désirait, c'était par amour du pays et regret d'aussi bon maître. On le congédia d'une manière froide. Il revint le soir même. Pécuchet avait sermonné Bouvard. Ils allaient fléchir. Gouy demanda une diminution de fermage. Et comme les autres se récriaient, il se mit à beugler plutôt qu'à parler, attestant le bon Dieu, énumérant ses peines, vantant ses mérites. Quand on le sommait de dire son prix, il baissait la tête au lieu de répondre. Alors sa femme, assise près de la porte avec un grand panier sur les genoux, recommençait les mêmes protestations en piaillant d'une voix aiguë comme une poule blessée. Enfin, le bail fut arrêté aux conditions de 3 000 francs par an, un tiers de moins qu'autrefois. Séance tenante, Maître Gouy proposa d'acheter le matériel, et les dialogues recommencèrent. L'estimation des objets dura 15 jours. Bouvard s'en mourait de fatigue. Il lâcha tout pour une somme tellement dérisoire que Gouy, d'abord en écarquillant les yeux et s'écriant « Convenu !» lui frappa dans la main. Après quoi, les propriétaires, suivant l'usage, offrirent de casser une croûte à la maison, et Pécuchet ouvrit une des bouteilles de son Malaga, moins par générosité que dans l'espoir d'en obtenir des éloges. Mais le laboureur dit en rechignant « C'est comme un sirop de réglisse !» Et sa femme, pour se faire passer le goût, implora un verre d'eau-de-vie. Une chose plus grave les occupait. Tous les éléments de la Bouvarine étaient enfin rassemblés. Ils les entassèrent dans la cucurbite avec de l'alcool, allumèrent le feu et attendirent. Cependant, Pécuchet, tourmenté par la mésaventure du Malaga, prit dans l'armoire les boîtes de fer blanc, fit sauter le couvercle de la première, puis de la seconde, de la troisième. Il les rejetait avec fureur et appela Bouvard. Bouvard ferma le robinet du Serpentin pour se précipiter vers les conserves. La désillusion fut complète. Les tranches de veau ressemblaient à des semelles bouillies. Un liquide fangeux remplaçait le homard. On ne reconnaissait plus la matelote. Des champignons avaient poussé sur le potage. Et une intolérable odeur empestait le laboratoire. Tout à coup, avec un bruit d'obus, l'alambic éclata en 20 morceaux qui bondirent jusqu'au plafond, crevant les marmites, aplatissant les écumoires, fracassant les verres. Le charbon s'éparpilla, le fourneau fut démoli, et le lendemain, Germaine retrouva une spatule dans la cour. La force de la vapeur avait rompu l'instrument, d'autant que la cucurbite se trouvait boulonnée au chapiteau. Pécuchet tout de suite s'était accroupi derrière la cuve et Bouvard, comme écroulé sur un tabouret. Pendant 10 minutes, ils demeurèrent dans cette posture, n'osant se permettre un seul mouvement, pâle de terreur au milieu des tessons. Quand ils purent recouvrer la parole, ils se demandèrent quelle était la cause de tant d'infortunes, de la dernière surtout. Et ils n'y comprenaient rien, sinon qu'ils avaient manqué périr. Pécuchet termina par ces mots : « C'est que peut-être nous ne savons pas la chimie. »